Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Par ici les sorties, mon dernier numéro de la saison. Et pour ce faire, j'ai décidé de vous parler de deux événements. En seconde partie d'émission, je reviendrai sur le marché de la poésie de la place Saint-Sulpice à Paris. Vous savez que à Radio Grand Ciel, on ne manque jamais de vous parler de poésie contemporaine. Eh bien, je reviendrai sur cet événement avec l'interview de Jean Le Boël des éditions Henri, que vous avez déjà entendu dans notre émission La Route Inconnue. Et puis, tout de suite, la découverte d'un artiste, Orode De Oro, artiste italien, qui exposera à la chapelle Saint-Aimant à partir du samedi 24 juin. Il s'agit de Mosaïque, le titre de cette exposition, Mon cœur mis à nu. Et pas seulement, nous avons interviewé l'artiste dans l'atelier que la ville de Chartres lui a prêté pour sa résidence d'artiste, ces rues du massacre sur les bords de l'Eure. À mes côtés, Orode De Oro, dont vous avez peut-être pu voir les œuvres ou les entreapercevoir par la fenêtre de son atelier d'artiste que lui prête la ville de Chartres depuis le mois de mai. Je lisais votre nom sur l'affiche de l'exposition qui va bientôt démarrer à la chapelle Saint-Aimant et je vois Orode De Oro. Mais oui, me suis-je dit, mais là il y a un nom, un jeu avec le nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ce jeu?
Bonjour à tous. C'est seulement un jeu avec mon vrai nom et mon vrai prénom. C'est un jeu de fragmentation. Je m'occupe de la mosaïque et je vais fragmenter tout. Mais je n'aime pas dire mon vrai nom et prénom. Je m'appelle Orode De Oro. Voilà. Orode est le miroir, il y a De Oro. Mon travail, au commencement, c'était pittorique et expressionniste. Et il devient, à travers de la mosaïque, un discours de la combinaison, de la fragmentation qui devient unité. C'est un discours sur la masque, sur la fragmentation et sur l'unité.
Alors, les auditeurs de Radio Grand Ciel ont compris que vous ne veniez pas de France. Vous êtes donc originaire d'Italie, c'est ça?
Oui, c'est vrai. Je suis du sud de l'Italie, de la Puglia, mais je vis en Milan de 3 ans. Pour travail dans mon atelier.
Pouvez-vous nous expliquer comment vous êtes arrivé ici à Chartres pour quelques mois? Comment ça s'est fait?
Je dois remercier l'association Les 3R et la ville de Chartres. Il y a un travail en commun entre l'association qui a donné la mosaïque contemporaine à la ville de Chartres, qui est les 3R, et le grand travail de la ville qui m'a donné l'atelier. Et le bout de cette résidence d'artiste de 2 mois, c'est l'exposition à la chapelle Saint-Aimant, le 24 de juin à le 3 de septembre.
Cette exposition s'intitule « Mon cœur mis à nu » et pas seulement. « Mon cœur mis à nu » nous renvoie à Baudelaire, qui est votre compagnon?
Oui, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le poème de Baudelaire. C'est parfait pour moi d'être ici, dans cette merveilleuse ville. Et le titre est inspiré à son œuvre, le journal intime, le Mon cœur mis à nu. Et j'ai voulu nommé mon exposition « Mon cœur mis à nu » et pas seulement, mais c'est seulement un jeu pour parler avec ma mosaïque de son cœur et de mon cœur.
Et qu'est-ce qu'il y a au fond de votre cœur qu'on peut voir sur l'étoile?
Au fond de mon cœur, il y a beaucoup de vie, beaucoup de corps, beaucoup de tesselles qui veulent devenir une unité.
Ouais. On va juste dire ce que sont que les tesselles. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas la mosaïque, c'est quoi une tesselle?
Les tesselles sont les petits morceaux de céramique avec qui je compose mes œuvres. Parce que pour cette raison, je parle de fragmentation. Il y a plusieurs morceaux. Il y a un dessin, avec mon travail avec le enduit époxy. Et l'enduit époxy, c'est l'espace vide entre morceau et morceau que je peux colorer avec l'enduit noir. Et c'est le couleur noir pour moi entre cette joue et cette composition avec plusieurs morceaux.
Alors là, on est donc dans votre atelier, rue du Massacre à Chartres. Il y a une pièce, on voit des mosaïques, donc ce qui sera une partie de ce qui sera exposé. Mais je vois aussi que vous êtes un dessinateur tout à fait extraordinaire. Vous avez commencé par le dessin.
Oui, ah, merci, merci. Si. Je suis autodidacte, j'ai commencé comme peintre et la mosaïque existe de 17 ans. Je suis vraiment comme un traducteur avec la mosaïque de mon dessin et de ma peinture. Ma peinture est très très expressionniste et toute la recherche de le mosaïste à moi, c'est de traduire avec le temps nécessaire tous les signes, toutes les formes, toute ma peinture. Et ils sont déjà 17 ans et j'ai besoin de temps, mais je suis à la recherche toujours.
Comment êtes-vous devenu artiste?
Ah, quel joli, joli don. C'est une question que je me fais tous les jours. Je sais seulement que j'ai laissé mes études de philosophie. J'étais très jeune pour me dédier complètement à l'art. Et l'art comme recherche de comprendre moi-même, comme déjà avec la philosophie je faisais. Mais j'avais besoin de plus de vérité et de plus de risques pour chercher vraiment moi-même. Et l'art, le dessin, la peinture et depuis la mosaïque. Et la mosaïque surtout avec ce discours de fragmentation de plupart de tesselles, de morceaux qui veulent devenir quelque chose de compréhensible. Et c'est seulement la recherche de comprendre le bout de tout, de la vie, de moi-même.
Oui. Et parce qu'on est souvent, vous êtes comme tout le monde, en morceaux, et vous cherchez à faire votre unité, c'est ça? Ou c'est ce que vous cherchez à dire, en tout cas?
C'est vraiment ça. Et vraiment, chaque fois que je comprends quelque chose, c'est un langage, c'est une langue qui c'est infinie. La compréhension de moi-même, c'est une forme d'art. Et il n'y a pas de la fin. Il n'y a pas de la fin.
Alors je me dis que donc vous êtes arrivé début mai ici dans l'atelier et vous exposez le 24 juin, vous exposez des œuvres que vous êtes en train de créer. Je me dis ça vous laisse deux mois, c'est pas beaucoup pour une œuvre. Est-ce que vous vous sentez stressé, comme on dit, tendu?
C'est une grande chose pouvoir créer de nouvelles œuvres dans la ville de Chartres parce que je respire. Je vive pendant ces deux mois et j'ai réalisé déjà trois vraiment nouvelles œuvres et un grand vase qui sera au centre de l'exposition. Deux mois ne sont pas beaucoup pour comprendre et pour créer beaucoup d'œuvres, mais j'ai laissé les signes parce que, comme j'ai dit, j'ai déjà quatre œuvres. Et ils vont à l'exposition de la chapelle Saint-Aimant.
Alors, Baudelaire vous accompagne encore, parce qu'il y a une œuvre où on peut découvrir Baudelaire, à côté de la Tour Eiffel.
Oui, c'est vrai, c'est la deuxième œuvre que j'ai réalisée pendant ma résidence. C'est une nouvelle œuvre qu'il y a de la peinture imprimée sur la céramique et de la mosaïque en céramique, c'est-à-dire ma traditionnelle technique de céramique coupée à la main et enduit époxy. Et dans l'espace blanc de cette céramique, j'ai créé un portrait idéal du poète, n'est pas un portrait photographique, mais tout mon esprit et toute ma connaissance de son œuvre, ils sont devenus un portrait idéal. Et sa promenade dans la ville de Paris, symbolisée pour la Tour Eiffel, sur une page blanche, comme sur une page blanche.
Pourquoi aimez-vous Baudelaire tout particulièrement? Pourquoi Baudelaire? Quelle question!
C'est une... Quelle question, vraiment. Bah, c'est la vérité, si je dis, que tout mon art est français, parce que j'ai commencé à penser à l'art à 16 ans, pendant la lecture de le poème romantique français. N'est pas seulement Baudelaire, mais c'est toujours quand j'ai compris que la poésie, c'est une forme pour une vie nouvelle. Et j'avais 16 ans et j'ai lu l'Albatros et la vie de Baudelaire. Et le dernier vers de l'Albatros. Et je l'ai imprimé avec la mosaïque sur le grand vase qui sera au centre de l'exposition. Mon cœur mis à nu, je l'ai écrit sur une autre œuvre. Le poème de Baudelaire a modifié complètement ma vie et je suis presque de lui, presque de son art. Peut-être j'imagine le poète et sa promenade dans la ville de Chartres. Ouais. Mais pas seulement à Paris.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que votre atelier, il est merveilleusement situé au bord de la rivière et vous avez une vue extraordinaire sur la rivière avec une fenêtre qui est presque un tableau. Vous m'avez dit, cette fenêtre, c'est déjà une œuvre. Et, eh bien, cette fenêtre, elle vous a réservé une petite surprise que les... Racontez-nous ça.
Oui, c'est incroyable. Je dois dire que dans cet atelier, toute la ville, tous les centres de la ville, c'est incroyable pour moi. Je ne suis pas habitué à une vision si pure du Moyen-Âge. Mais la ville, c'est vraiment le tableau, c'est un tableau incroyable, avec les petits ponts, avec tous les paysages. Et pendant que je suis en train de créer mes œuvres, tous les jours il y a le canard, et je ne connaissais pas le canard. Et j'aime beaucoup, je suis devenu ami de le canard avec le pain, je lui donne l'air de manger. Et à la fin, la troisième œuvre que j'ai réalisée, il y a le portrait d'un canard, symbolique avec beaucoup d'autres choses, mais c'est le joli de la résidence. Parce que je vais faire quelque chose dans votre ville.
Oui, c'est intéressant. Racontez-nous ce projet-là, avec la ville, ou un appel démocratique qui est lancé. Racontez-nous ça.
Oui, nous chercherons de donner de petites œuvres. Et c'est mon désir. Et avec l'aide de la ville, nous chercherons de créer un appel démocratique. Pour voir s'il y a 12 personnes, 12 familles qui veulent une petite œuvre de presque 30 pour 40 cm, inspirée à le paradis terrestre, qui c'est une grande mosaïque que j'ai réalisée à Milan, dans la ville, dans la maison d'un grand artiste, architecte qui s'appelle Fabio Novembre. Et c'est une mosaïque très très grande, de 5 mètres par 5 mètres, et avec le thème du paradis, et 12 petites mosaïques, parce que le numéro 12 c'est très symbolique, et c'est vraiment mon cadeau, et mon plaisir à faire ça. Mais c'est un jeu avec le numéro.
Le numéro
juge. Oui, ce n'est pas une choisi
au hasard. Qu'est-ce qui vous évoque, vous, dans votre histoire, le chiffre 12?
C'est un message de révélation. C'est un numéro magique. Je suis toujours en train de jouer avec le symbole.
Merci beaucoup, Rodé Deoro. Mon cœur mis à nu et pas seulement. C'est une exposition à découvrir absolument du 24 juin au 3 septembre. Ce sera donc du mardi au dimanche de 14h à 18h. C'est à la Chapelle Saint-Aimant et la Chapelle Saint-Aimant se trouve 11 rue Saint-Aimant. Merci beaucoup.
Merci à vous et je vais espérer tout à mon exposition. Merci. Merci à la ville de Chartres et à l'association Les 3R pour cette merveilleuse occasion pour moi.
C'était l'inimitable Björké The Guðmundur Ingólfssonar Trio dans un morceau intitulé Katarokkar. Deuxième partie de cette émission Par ici les sorties, je vous emmène à Paris, place Saint-Sulpice, où s'est déroulé la semaine dernière le traditionnel marché de la poésie. Une partie des enregistrements que j'y ai effectués seront diffusés à la rentrée prochaine dans l'émission La Route Inconnue, mais une petite écoute apéritive aujourd'hui avec la découverte ou la redécouverte des éditions Henri par leur directeur littéraire Jean Le Boël. Il va nous parler des éditions Henri et de ce qu'il pense de ce marché de la poésie, de la place que tient ce marché dans la vie poétique française. Un autre éditeur présent donc aujourd'hui au marché de la poésie et durant 3 jours, vous le connaissez déjà, c'est Jean Le Boël. On a déjà parlé plusieurs fois de votre poésie, mais de votre travail aussi d'éditeur et de directeur littéraire d'une maison d'édition, parce que les éditions Henri, c'est une société d'édition. Directeur littéraire et éditeur, c'est quoi la différence au juste?
En fait, l'usage veut qu'on dise éditeur pour celui qui prend en charge l'édition d'un livre. Ensuite, dans la société, on a un statut, le mien est celui de directeur littéraire, l'éditrice et la gérante de la société est Catherine Henry, à laquelle je suis très reconnaissant de me donner une certaine liberté de travail.
C'est une histoire un peu particulière parce que c'est un cadeau qu'on vous a fait, c'est ça ?
Une sorte de cadeau, effectivement. J'écrivais régulièrement des chroniques linguistiques dans la presse régionale et ça avait un certain succès. Et donc, un jour, la directrice de publication, qui était en même temps éditrice, il y avait une petite société d'édition, m'a dit si tu veux, on en fait un florilège, il y a du courrier des lecteurs, ce serait bien. Et je lui ai dit écoute, si tu as de l'argent à perdre, je préférerais que tu m'aides à lancer une petite activité littéraire. Elle m'a dit oui, c'est de l'argent à perdre, mais nous allons le faire.
Alors cette aventure littéraire, c'est une aventure à deux têtes, il y a la revue et puis Écrit du Nord et la maison d'édition, l'une nourrissant l'autre.
Oui, la revue, il y a une orthographe légèrement différente entre Écrit du Nord avec le S entre parenthèses pour la revue et la collection de poésie chez Henri, Les Écrits du Nord, mais en fait c'est le même animateur. La revue est maintenant hébergée par la maison d'édition Henri. Mais elle continue d'avoir une forme d'autonomie, par exemple dans l'organisation du prix des Trouvères, dont Henri n'est que l'éditeur, et c'est le comité de lecture de l'association qui continue d'avoir le choix du titre qui sera ensuite fabriqué par les éditions Henri.
Et les éditeurs ont pu découvrir il y a un mois de juin la dernière lauréate du prix des Trouvères, Laurence Lépine.
Oui, un très beau texte.
Je porte la merveille. Alors, est-ce que la revue, c'est aussi finalement un creuset où on découvre les talents ? Est-ce qu'il vous est arrivé, par exemple, de publier des choses en revue, une fois, deux fois, trois fois, puis au bout du compte, de vous dire, celui-là... Je vais peut-être le publier.
Oui, c'est le fonctionnement normal d'une revue. Et je conseille souvent aux auteurs, envoyez à des revues. Je donne même des titres. Les revues sont souvent curieuses de nouvelles voix. Et ça permet à un auteur de s'affermir, de se faire connaître, de pouvoir dire à un éditeur, j'ai déjà été choisi. Il y a des gens qui connaissent mon nom, etc. Ça, c'est la fonction normale d'une revue. Mais chez nous, Écrit du Nord sert aussi à adresser un signe à tous ces gens qui nous envoient des textes et que nous ne pouvons pas publier parce que nous recevons en poésie, plus de 500 propositions par an. Et il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. D'ailleurs, on peut être indifférent à aucune, mais entre celles qui ne sont pas pertinentes, etc., on fait un tri. Mais il en reste une centaine qui serait intéressante. Or, nous publions une vingtaine d'ouvrages de poésie par an. Donc, à un certain nombre de ces gens, nous disons, grâce à Écrit du Nord, non, vous n'êtes pas tout seul, non, vous êtes entendu, et puis peut-être une prochaine fois.
Ça, sans manuscrit à lire, vous êtes nombreux au comité de lecture ?
Alors, moi, je les lis tous, et ensuite, je les répartis entre différents comités, que je constitue. Il y a une dizaine de personnes qui tournent autour de nous, et je crée des comités à chaque fois de trois lecteurs. Selon les ouvrages que nous recevons.
Alors une fois qu'on a évidemment édité, il faut vendre, il faut diffuser. Est-ce que c'est un problème pour les éditions Henri de diffuser ces livres ?
Alors c'est un problème pour chacun, mais finalement nous ne nous en sortons pas toujours trop mal. D'abord parce que nombre d'auteurs effectivement s'impliquent dans la promotion de leur travail, ce qui est normal. Ensuite parce que nous commençons à être connus, il y a un effet d'entraînement et les plus obscurs sont un peu éclairés par ceux qui ont un peu plus de notoriété. Il faut dire que nous avons essayé différents systèmes. Nous avons essayé par exemple deux diffuseurs nationaux, mais leurs représentants ne sont pas formés. Et même quand on essaie de les former, ils s'avèrent très malhabiles pour parler de poésie à des libraires qui eux-mêmes ne sont pas forcément enthousiastes. Donc il faut absolument un travail de terrain, et c'est ce que nous essayons de faire par des actions en milieu scolaire, par la présence dans de nombreux salons, par l'accompagnement de toutes les manifestations que nous pouvons soutenir. Voilà.
Est-ce que un moment comme celui-ci, celui du marché de la poésie de la place Saint-Sulpice, est important pour un éditeur ? Et pour quelles raisons ce serait important ?
Personnellement, j'y accorde une grande importance parce que c'est l'occasion de revoir tous ces artisans de la poésie dont je me sens très proche, tous ces confrères qui, comme nous, font ce qu'ils peuvent pour faire vivre une parole différente et une parole plus authentique, qui puisse libérer les gens. Et c'est d'abord ce plaisir-là. Ensuite, c'est une opération qui, pour nous, est rentable, entre guillemets, mais pas plus que beaucoup d'autres salons, parce que Paris, c'est onéreux, parce que la location ici même est onéreuse. Mais bon, c'est une fête de la poésie et nous tenons à en être.
Une fête qui a failli, si j'ose dire, mal tourner, puisqu'on a parlé de supprimer à un moment le marché de la poésie, faute de subsides d'ailleurs.
Oui, ça fait plusieurs années, il y a eu plusieurs alertes, mais je n'arrive pas à croire qu'on puisse imaginer se priver d'une telle manifestation, ce serait vraiment très décevant.
Merci beaucoup, merci.
Merci à vous.
Voilà, je vous invite tous, évidemment, à vous procurer les livres des éditions Henri, mais je vous invite aussi à aller l'année prochaine à Paris, vous prenez le train, à Chartres, à Dreux, à Châteaudun ou à Nogent-le-Rotrou, et vous filez à Paris, il fait souvent très très beau, marché de la poésie, place Saint-Sulpice, et vous découvrirez la richesse du paysage poétique français, les nombreux éditeurs, les revues et les poètes qui ne manqueront pas de signer leurs œuvres. Voilà, excellente fin de journée à toutes et à tous. La prochaine édition de Paris s'il est sorti pour ce qui me concerne, eh bien ce sera à la rentrée.
Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant, pour retrouver le rose initial de ta joue devenue pâle, le bleu de nos baisers du début, tant d'azur perdu. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant. Matisse, l'amour, c'est bleu difficile, les caresses rouges fragiles, le soleil de la vie les tabasse, et alors elle passe. Allez, à la machine. Pour faire tomber la misère de nos gentils petits grands-pères, noirs les mains dans les boucles blondes, tout autour du monde. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait